À vous la suite. À toi de voir, de Luc de Flo. Fin du livre. Il est maintenant temps de savoir comment s'en sont sortis, ou pas, nos personnages enfermés dans le presbytère. Si cette vision des derniers chapitres du livre vous laisse sur votre faim, le livre reste disponible à la bibliothèque pour une écoute complète.
Chapitre 27. C'était trop de frayeur en trop peu de temps. Il se dirigea à tâtons vers le salon, les doigts crispés sur le couteau de boucher qu'il brandissait devant lui. De Storm avait été le premier à pousser un cri. Puis il y avait eu Elsa, et Eddie semblait s'être évaporé dans la nature. D'où ce roublard avait-il sorti la clé de la porte de la cuisine? Avait-il aussi celle de la porte d'entrée? Avait-il tout minutieusement orchestré? Était-il parvenu à sortir? Mais pourquoi? Et pourquoi seulement maintenant? Il avait pourtant eu d'autres opportunités pour s'enfuir, non? Donden écarta ses pensées. Toutes ces folles suppositions ne l'aideraient pas à aller bien loin. La seule chose qu'il pouvait faire à présent, c'était se préoccuper de son propre sort, comme il l'avait fait tout au long de sa vie. Il devait faire confiance à ses instincts primitifs. Or, ceci lui soufflait qu'Eddie, tout sournois qu'il était, ne représentait pas une menace directe. Ce type était trop lâche pour envisager d'attaquer. De Storm, par contre, c'était une toute autre histoire. Ce bovin sans cervelle ne reculait pas devant la violence. Et il était complètement imprévisible, ce qui le rendait encore plus dangereux. Il y avait de la lumière au salon. Donden s'approcha à pas feutrés. Personne. Mais la pièce était sans dessus-dessous. De Storm était sans doute passé par là, tout récemment. En fouillant les gravats, Donden fit néanmoins une découverte intéressante. Le burin rouillé et le marteau arrache-clou que De Storm avait utilisé. Il ramassa les outils. Toute nouvelle arme était la bienvenue. Dans le couloir, il n'y avait toujours pas âme qui vive. Donden regarda distraitement vers le haut de l'escalier. Le burin et l'arrache-clou dans une main et le couteau de boucher dans l'autre, il entreprit de monter les marches. Parvenu au milieu de son ascension, il s'immobilisa. Ce n'était pas une illusion liée au stress. Il avait bel et bien repéré une tache de sang sur la marche. D'autres gouttes coagulaient sur les marches suivantes. À qui appartenait-elle? Elsa, murmura Donden. Avait-elle quitté sa cachette pour venir évaluer la situation après avoir entendu le cri de De Storm, ce qui avait permis à cette brute de la prendre au piège? L'avait-il attaquée dans les escaliers? De Storm avait-il poursuivi Elsa alors qu'elle était à l'agonie? L'avait-il rattrapée en haut des marches avant de l'achever? En envisageant cette dernière supposition morbide, Donden fut parcouru d'un frisson d'effroi. Elsa était une pute, indigne de confiance, certes, mais elle n'était pas dangereuse et restait facile à manipuler. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle il avait cherché à s'en faire une alliée. Il essaya de mettre ses émotions de côté. Ce n'était pas le moment de devenir sentimental. La question qui se posait, c'était de connaître le mobile de tout cela. Pourquoi De Storm aurait-il tendu un piège à Elsa avant de l'assassiner? Même un primate dans son genre avait quand même dû réaliser qu'Elsa n'était pas la meurtrière. Oui, c'était vrai, il était possible qu'elle ait tué Francesca d'Abruzzo. Des femmes entre elles, soit. Mais aller saboter l'électricité à la cave avant d'électrocuter un flic expérimenté dans le noir? Non, Elsa n'était pas capable de ça. Pourquoi De Storm s'en serait-il pris à elle, alors? Donden n'en pouvait plus de ses propres élucubrations. Il reprit sa progression dans l'escalier. Il devait agir, s'il ne voulait pas devenir complètement parano. Il se concentra sur la traînée de sang qui partait de l'escalier jusqu'au milieu du couloir. De Storm avait-il tiré le corps d'Elsa au sol avant de s'en débarrasser dans une des chambres? Donden essaya la poignée de la première porte. Elle n'était pas verrouillée. Il regarda autour de lui avant d'ouvrir prudemment. Ses doigts glissèrent le long du mur à la recherche de l'interrupteur. Il s'agissait d'un petit cabinet de lecture, au mur couvert de bibliothèque. Personne, et il n'y avait pas vraiment de meubles derrière lesquels se cacher. Une deuxième porte sur le mur de gauche du cabinet menait vraisemblablement à la pièce adjacente. Donden essaya la poignée, mais la porte ne bougea pas d'un pouce. Cela le surprit, car il n'y avait pas de serrure, ce qui laissait supposer que le ventail ne pouvait être verrouillé que de l'intérieur. Il abandonna le cabinet de lecture et retourna dans le couloir. La porte suivante était fermée à clé. Il se pencha en avant et regarda de son bon œil dans le trou de la serrure. Tout était plongé dans la pénombre, ou presque. En changeant un peu la position de sa tête, il avait l'impression d'apercevoir un rayon de lumière. Sa conclusion fut rapide. S'il y avait du soleil, et si la clé était dans la serrure, quelqu'un se trouvait à l'intérieur, à moins que toutes les pièces ne soient reliées entre elles par des portes intérieures. La pensée avait de quoi l'affoler. Bouger, il devait rester en mouvement. La troisième et dernière porte, elle, n'était pas fermée à clé. Lorsqu'il l'ouvrit, il fut accueilli par une odeur de moisie caractéristique d'une pièce meublée qui n'avait plus été aérée depuis des années. Il alluma la lumière, puis resta immobile. Il cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il voulait imprimer en une fois, dans son cerveau, l'image compliquée qui s'offrait à lui. Une entreprise impossible, au vu de l'ampleur du Capharnaüm qui s'étalait devant lui. Là non plus, il n'était pas possible d'entrer dans la pièce adjacente, malgré la présence d'une nouvelle porte. Il sortit de la pièce, referma la porte et concentra son attention sur celle du milieu, celle qui était fermée à clé. Il se pencha en avant et plaça sa bouche à hauteur du trou de la serrure. « Elsa ! Elsa, vous êtes là ?» Pas de réponse. De la pointe de son couteau de boucher, il essaya de pousser la clé insérée à l'intérieur de la serrure. En vain. Quelqu'un avait dû la tourner. Frustré, il recoinça le couteau à l'arrière de sa ceinture, recula de quelques pas et se lança de tout son poids contre la porte. Celle-ci ne céda pas, mais Donden avait compris qu'il pouvait abandonner la stratégie de la discrétion. Cela n'avait plus aucun sens d'essayer de ne pas indiquer sa position en faisant le moins de bruit possible. Il pouvait passer à la manière forte. Tel Jack Nicholson, pris de démence dans Shining, il plaça le burin contre le bois, pas trop loin de la serrure, et commença à le marteler avec le marteau arrache-clou. À force de persévérance et de jurons, il parvint à percer un gros trou dans le ventail, qui n'était heureusement pas doublé d'une plaque de métal comme la porte d'entrée. Ne parvenant pas à glisser sa main dans l'ouverture, il essaya d'élargir encore un peu le trou. « Et ça va ? Ça se passe comme tu veux, mon général ?» Donden lança un regard affolé derrière lui. Chapitre 28. Avant que Donden, complètement décontenancé, n'ait eu le temps de se remettre de sa surprise, De Storm lui avait déjà arraché son burin et son marteau. Dans un réflexe de survie, Donden se jeta en arrière. Mais De Storm l'ignora, pour continuer à démolir la porte. Il introduisit brutalement le burin dans la fissure et commença à lui faire faire des mouvements de va-et-vient. Donden ne remarqua le bandage qui entourait la main de De Storm que lorsque ce dernier émit un gémissement de douleur. Le bandage était taché de sang. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » osa-t-il demander en gardant une main dans son dos. Sous son veston, il avait les doigts crispés sur le manche du couteau de boucher. « Je me suis tapé sur les doigts, » râla De Storm en agitant sa main blessée. Donden hocha mécaniquement la tête. « Tu ne me crois pas ? » ?»« Tu penses quoi ? Que j'ai arraché le cœur de quelqu'un à main nue ?» Donden ignora cette énième provocation. « Comment t'as fait pour sortir de la cuisine ?» demanda brusquement De Storm. « C'est grâce à Eddie. Eddie, il est où celui-là ? » ?»« Il s'est barré. Il avait une clé, ce con, » répondit Donden. « Quoi ? Une clé ? De la porte d'entrée ? Putain de merde ! Ce naze ! Comment est-ce possible ? Non, » dit Donden, désireux d'interrompre une nouvelle bordée d'injures. « Pas une clé de la porte d'entrée, mais de la cuisine. Et comment ? Je n'en sais rien. » Lorsque De Storm le toisa avec mépris, Donden serra le manche du couteau un peu plus fort. De Storm fit un geste de dépit et concentra son attention sur la porte. « Des portes intérieures en chaîne massif, » expliqua De Storm, qui laissa échapper sa frustration en frappant de toutes ses forces sur le bois avec le marteau. « Il est où, ton gros marteau ?» cria Donden entre deux coups. « La massette ? Aucune idée. Quelqu'un me l'a piqué, je crois, » haleta De Storm. « Quelqu'un ? Qui ça ? Le meurtrier, qui d'autre ? » répondit De Storm avec un sourire en coin. Les veines de son cou gonflaient à mesure qu'il utilisait toutes les forces de ses gros bras pour faire sauter le bois. « Bordel, mon général, tu n'as pas envie de m'aider un peu ?» Donden se projeta contre la porte avec son épaule. « Non, pas là, abruti. Ici. Tire, putain !» Donden fit ce qu'on lui demandait, mais en gardant les doigts sur son couteau. « Bordel de merde, gros naze !» jura de Storm. « Avec tes deux mains !» Donden hésita. « Tu as trouvé le flingue de Vergowen ?» ajouta l'homme à tout faire qui avait compris qu'il y avait anguille sous roche. « Ou alors c'est ma massette que tu as planquée dans ton froc ?» Donden fit signe que non, comme un gamin surpris avec une sucette. Il lâcha le manche du couteau. En unissant leurs forces, ils firent aller le burin de gauche à droite. Le bois craqua. Une seconde fissure apparut, perpendiculaire à la première. De Storm martela la fissure en faisant voler des bouts de bois jusqu'à créer un vrai trou par lequel il essaya d'atteindre la clé. Il n'y arrivait pas. Son poignet était trop gros. « Essaye-toi pour voir. »« Essayez quoi ?»« À ton avis, d'ouvrir cette putain de porte. » Donden haussa les épaules. « Bordel de merde !» râla de Storm. « Donden, tu es sur quelle planète ?» C'est toi qui voulais absolument entrer là-dedans. Pas moi. Donden ne répondit pas. De Storm avait raison. Allez, mon chaton, dit De Storm d'un ton mielleux. Faut pas pleurer. Passe juste ta petite patte de gonzesse dans cette fente et essaye de faire tourner cette clé. Ignorant la moquerie, Donden contracta sa main au maximum et la glissa prudemment dans le trou. Il sentait les échardes de bois lui entrer dans le poignet, mais il n'abandonna pas. Il toucha soudain la clé du bout des doigts et essaya de la faire tourner. Très prudemment, car si la clé tombait au sol, ils étaient encore là pour un moment. « Et voilà, » dit Donden, alors que la grosse goutte de sueur qui lui pendait au nez tombait au sol. « C'est ouvert. » De Storm poussa la porte sans aucun égard pour le poignet de Donden, qui laissa échapper un gémissement. « Qu'est-ce que... » grogna De Storm. Mais plus aucun son ne put franchir ses lèvres. Il contempla l'horrible scène... Bouche bée. Chapitre 29. Dominique de Storm tituba vers le lit double sur lequel était allongée Elsa Quisquater. Elle gisait sur le dos, tout habillée, mais les cuisses écartées, révélant une adorable petite culotte rose. Une jambe pendait hors du lit, l'autre était étendue sur le drap, la cuisse et le mollet formant un angle à 90 degrés. Elle avait les yeux grands ouverts, et ses yeux écarquillés disaient clairement qu'ils avaient vu l'enfer. Quelqu'un lui avait fracassé le crâne. Il y avait du sang partout, sur les draps, sur les oreillers, sur les vêtements de la pute de luxe, sur la tête de lit, et même sur les murs. Donden, qui était entré derrière De Storm, mit sa main devant sa bouche et fut pris de haut le cœur quand il comprit que les petits amas de pudding aux fruits rouges, catapultés aux quatre coins de la pièce, n'étaient pas des caillots de sang, mais des morceaux de cervelle. De Storm eut du mal à déglutir. Pendant quelques secondes, il fut complètement absent, loin de ce monde. Ce n'était pas à cause de la scène sanglante, mais bien à cause de l'objet posé au sol à côté du lit qui le narguait d'un air accusateur. La massette, sa massette, qu'il avait utilisée pour essayer de sortir de ce putain de presbytère. La tête du marteau était couverte de sang. Cherchant désespérément de l'air, De Storm lança un regard de chien enragé derrière lui. Donden avait gardé la main devant sa bouche pour prendre une contenance, mais ses pupilles dilatées disaient sans aucun doute possible qu'il avait vu la massette ensanglantée. Il fit semblant de devoir vomir pour reculer et passer de l'autre côté du lit, afin de placer le meuble entre De Storm et lui. Les deux hommes se fixaient comme s'il s'agissait de leur première rencontre et qu'ils essayaient de se jauger. La scène avait un côté surréaliste, presque comique, en dépit des circonstances. De Storm fut le premier à se ressaisir. Il cracha dans ses mains. Ce fut comme un signal pour Donden. Il bondit instinctivement en arrière. Il se prit les pieds dans le tapis, se rattrapa, retrouva l'équilibre, sortit le couteau de boucher de derrière sa ceinture et le brandit devant lui. Il était prêt à défendre sa vie au prix fort. « Bande d'enfoirés !» hurla De Storm. Tremblant de rage. Il s'agenouilla pour ramasser la massette, sans penser à rien. De toute façon, il avait déjà mis ses empreintes digitales dessus. On les retrouverait aussi sur les éclats de verre plantés dans le cou de Francesca d'Abruzzo, et dans la cave, sur les câbles qu'avait électrocuté le flic. Et Dieu sait où, encore. Ses doigts glissèrent le long des profondes griffures qui marquaient sa joue, causées par les ongles acérés de cette salope, sous lequel les flics trouverait aussi son ADN. lorsque deux Storm le fixa en faisant nom de la tête, Donden vit l'homme se transformer. Il ressemblait à un robot, une machine programmée pour tuer. Il fixa Donden d'un regard très clair, qui n'exprimait qu'une chose, la soif de meurtre. Cela ne dura qu'une fraction de seconde. Mais Donden garda suffisamment de présence d'esprit pour arracher la clé de la serrure, claquer la porte derrière lui et la verrouiller de l'extérieur. Il eut l'impression que le ventail allait exploser. Donden hurla à plein poumon, autant de douleur que de frayeur. Le premier coup de massette suffit pour faire sauter une partie du bois du ventail. Donden vit apparaître l'extrémité de la tête de l'outil. Il y avait encore du sang dessus. Le second coup suivit, juste après. Donden brandissait toujours le couteau devant lui. Il tremblait de tout son corps. Après un regard désespéré autour de lui, il comprit qu'il n'avait aucune chance face à ce fou déchaîné. Ce n'était pas avec un couteau, aussi aiguisé soit-il, qu'il allait pouvoir stopper ce bulldozer. Il ne disposait que de très peu de temps avant que deux Storm ne s'échappe de la chambre. Mais ce qu'il avait en tête pouvait aller vite. Il n'avait pas besoin de plus d'une minute. Refusant de céder à une panique aveugle et de prendre la fuite, il se dirigea d'abord vers les escaliers où il tapa vigoureusement des talons sur les plus hautes marches en secouant la rampe, dans l'espoir que deux Storm l'entendent et supposent qu'il s'était enfui au rez-de-chaussée. Ensuite, il revint sur ses pas, attendit un instant en retenant sa respiration, puis franchit la distance qui le séparait de l'autre côté du couloir, pendant que deux Storm continuaient à frapper rageusement sur la porte. Donden tendit le cou vers le plafond et contempla ce qui serait son salut. Chapitre 30. La charpente du toit était suffisamment pentue pour qu'on puisse faire basculer l'ensemble de la trappe de l'échelle rétractable du grenier. Cela offrait des perspectives. Donden était arrivé à cette conclusion quelques heures plus tôt, lorsqu'il avait cherché Vergoen là-haut. Le moment était venu de mettre son plan à exécution. Comme personne ne s'était donné la peine de remonter l'échelle et de refermer la trappe, il put directement commencer son ascension. Il passa la tête par l'ouverture et jeta un regard autour de lui. Rien ne semblait avoir bougé au grenier. L'espace poussiéreux était pour ainsi dire vide, mais l'essentiel de ce que le grenier avait à offrir était ailleurs. La corde et la lucarne. Donden gravit les derniers échelons. Parvenu en haut, il dirigea son attention sur l'ouverture à ses pieds. Deuxième partie du plan, remonter l'échelle en bois, ce qui s'avéra plus compliqué que d'y monter. La vieille lucarne était étroite, mais il devrait quand même parvenir à s'y glisser. Le bout de corde dont il disposait était loin d'être parfait, mais il devrait s'en contenter. Sans perdre un temps précieux, il se mit directement en action. Donden se hissa sur la pointe des pieds afin de regarder au travers de la vitre sale. Il avait compris que la pente du toit était particulièrement raide. De plus, comme le piteux état de la charpente le laissait présager, les tuiles étaient aussi très vieilles et probablement assez glissantes, car elles étaient recouvertes de mousse, et il brunait. Une descente en rappel en toute sécurité, comme chez les scouts quand il était gamin, était exclue. Il estimait la longueur de la corde à 6 ou 7 mètres, ce qui ne serait sans doute pas suffisant pour lui permettre d'arriver tout en bas. Il pourrait néanmoins atteindre le bord du toit. C'était loin d'être idéal, mais s'il y arrivait, non seulement il échapperait aux griffes meurtrières de deux Storm, mais il parviendrait peut-être à attirer l'attention d'un passant. Il préférait ne pas songer à l'éventualité fâcheuse où deux Storm sortirait le revolver du flic et commencerait à lui tirer dessus depuis le rez-de-chaussée ou par la lucarne. Il refusait d'envisager le pire. De toute façon, si ce fou furieux avait vraiment mis la main sur ce fameux pistolet, il s'en serait servi depuis longtemps. À moins que cet imbécile ne sache pas utiliser une arme à feu. L'important, en ce moment, c'était d'atteindre la gouttière le plus rapidement possible. Lorsque Donden entendit un gros craquement au premier étage et qu'il se rendit compte que les coups de marteau avaient cessé, il retint instinctivement sa respiration. Il n'avait plus une seconde à perdre. La bête était lâchée. Ce n'était pas le moment de paniquer. Donden devait garder son sang-froid. Le presbytère était immense. Si sa petite mise en scène avait fonctionné, ce dingue commencerait par aller le chercher au rez-de-chaussée. S'il tombait sur Eddie, ce serait un beau coup de chance, et ça donnerait à Donden un peu plus de marge. En prenant bien garde de ne pas faire craquer les planches, il ramassa la corde et tira plusieurs fois dessus pour la tester. Elle ne cassa pas, mais on ne pouvait pas dire non plus qu'elle lui paraissait très solide. Les poings serrés, Donden essaya de rassembler son courage. Encore une fois, il ne devait pas envisager le pire. Cette corde était peut-être vieille, mais elle faisait quand même un bon centimètre de diamètre et ne donnait pas l'impression qu'elle allait casser d'un coup. Pour bien s'assurer, il utilisa un autre enseignement de ses années chez les scouts, le nœud constricteur, une garantie que l'ensemble n'allait pas se défaire. Il tira un grand coup pour vérifier qu'il tenait et noua la corde autour de son corps, ce qui lui donnait une sécurité supplémentaire. Si pour une raison ou une autre, elle venait à lâcher, il se retrouverait suspendu et éviterait la chute mortelle. Il se sentait plus vivant que jamais. La pensée lui vint que ce n'est que dans les moments décisifs comme celui-là qu'on se rend compte à quel point la vie est fragile. Lorsqu'il entendit un bruit, ce fut comme si Dieu lui manifestait son soutien depuis le paradis. Mais cela venait du grenier, et Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Il dénoua la corde de la poutre et avança, son couteau brandi devant lui, vers l'endroit d'où cela semblait provenir. Le tas de cartons empilé dans le coin. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Il se rapprocha pas à pas, coula un regard derrière la pile de caisses et écarquilla les yeux. Roulé en boule, Eddie Tiampon faisait manifestement l'impossible pour sangloter en silence. Chapitre 31. Allez debout, mec, ordonna Donden, et arrête de chialer, ou c'est moi qui vais te couper les cordes vocales. Alors qu'Eddie se redressait péniblement, il se rendit compte que Donden avait attaché une corde autour de sa taille, mais ce ne fut qu'au moment de tituber vers lui qu'il comprit. La lucarne était ouverte. Donden voulait tenter de s'enfuir par le toit. La seule pensée de se retrouver abandonné fit chanceler Eddie d'angoisse. Il essaya de se reprendre, en inspirant et en expirant lentement, ce qui eut pour unique résultat d'accroître ses sueurs. « Ne fais pas ça, Marc !» supplia-t-il. « C'est trop casse-cou. »« De Storm est bien plus dangereux, » répondit Donden en remontant sur la chaise pour jeter un œil à l'extérieur. « Tu peux me croire sur parole. » « Et moi, Marc, s'il te plaît, à deux, on sera plus fort que lui. »« À deux ?» répondit-il, non sans ironie. « Salut, Eddie. Souhaite-moi bonne chance. »« Non, Marc, attends, je t'en supplie, » répliqua Eddie, au bord de l'épuisement. « Je n'en ai rien à battre de ce que tu penses, Eddie. Je me barre. » « J'ai plus une seconde à perdre avec des conneries. C'est clair ?» Eddie n'en croyait pas ses oreilles. Donden se montrait tellement retors. Il aurait voulu se jeter sur lui, le prendre à la gorge, mais son corps ne répondait plus. « Si tu ne veux pas rester tout seul ici, fais comme moi, » lança Donden. Mais Eddie tourna de l'œil. Donden arriva juste à temps pour le rattraper et l'empêcher de s'écrouler comme un poids mort sur le plancher. « Dès que j'arrive en bas, c'est à ton tour, » chuchota Donden en allongeant prudemment Eddie sur le sol. « Il suffit d'enrouler la corde autour de toi. Tu verras, ce sera facile. »« Non, je ne peux pas. Je n'oserai jamais. »« C'est comme tu veux. Si tu préfères te mesurer à deux storms, c'est pas mon problème. C'est ta vie. C'est ton choix. »« Me mesurer à deux storms ?» bégaya Eddie. « Je ne peux pas me battre. Je n'ai même pas d'armes pour me défendre. » Donden attrapa le couteau de boucher qu'il avait gardé planté dans sa ceinture. « Voilà, » dit-il en le plantant dans une poutre. « Maintenant, tu as une arme. Mais si de Storm, je veux dire, s'il... » bredouilla Eddie. Son cerveau ne semblait plus capable de faire des liens logiques. Il ne savait plus qu'une chose. Il devait tout faire pour rester en vie. « C'est lui qui a le revolver de Vergowen ? » reprit-il. « Aucune idée. Je ne l'ai pas vu. » « Bonne chance, Eddie. » Sans attendre plus longtemps, Donden se faufila par l'étroite ouverture de la lucarne. Il chercha une prise sur les tuiles, se préparant à ce qui s'annonçait comme une entreprise risquée. Sous la pression, une des vieilles tuiles se brisa net. Il attendit un instant et prit le temps de reprendre son souffle. Assis dans la poussière, Eddie contempla la scène d'un œil morne, jusqu'à ce que le crâne chauve de Donden disparaisse de son champ de vision. Le regard embué par les larmes, Eddie regarda le couteau. Il tendit les doigts avant de faire non de la tête. « Tuer un homme, il ne pourrait jamais. Puis il réfléchit, hésita. Dans un accès de folie peut-être, mais pas la tête froide. Non, pas la tête froide. Soudain, pris de panique, il chercha une seconde arme. Il venait de comprendre qu'il ne pouvait pas abandonner la partie. Mais il n'y avait pas d'autre arme. Il se sentait complètement impuissant. Il n'y avait personne pour l'aider. Il était l'homme le plus seul sur Terre. Oui, il était bel et bien seul au monde. Cette pensée lui fut intolérable. Et là, il craqua, comme foudroyé par ses sombres pensées. Malgré lui, son torse partit en avant. Ses mains, tremblantes, cherchèrent un appui en pilote automatique, car il ne se contrôlait plus. C'était bien simple, il ne contrôlait plus rien. Son corps, comme sa tête, avait abandonné le combat. Tout ce qu'il voulait, c'était ne plus rien ressentir, ne plus exister. Il n'avait pas peur de la mort. C'était l'angoisse qui le terrifiait. Il resta assis, ainsi, un long moment, jusqu'à ce que sa tête l'entraîne en avant. Tombé à quatre pattes, il posa son front en sueur sur le sol, comme mû par un réflexe, pour se rafraîchir le crâne. Mais tout n'était que saleté dans le grenier, et lui n'était qu'insignifiance. Sa métamorphose commença ainsi. Quelques gouttes de bave s'échappèrent de ses lèvres pour s'écraser dans la poussière. Puis vint un grondement primitif qui monta de ses tripes. Il n'avait plus rien d'humain. Seule la rage habitait encore son corps. Et c'est là qu'il montra les dents. Chapitre 32. Dominique de Storm se dirigeait à contre-cœur vers la cave, lorsqu'il entendit un bruit. C'était une sorte de claquement ou une sorte de battement d'aile que fait un pigeon en ville quand il panique et doit prendre la fuite pour tenter de sauver ses plumes. Juste après, il eut l'impression d'entendre des chevaux au galop. Puis, il perçut un gémissement qui monta crescendo jusqu'à un cri à glacer le sang. Enfin, il y eut de nouveau un claquement sourd, plus lointain. Telle fut du moins sa première impression. Ensuite, son cerveau épuisé essaya de trouver des causes logiques à ce qu'il avait perçu. Le claquement sourd devait venir de l'extérieur et du bas. Pourtant, c'est vers le haut que ses yeux se tournèrent spontanément. Il pivota et se repassa en pensée le fil de ses recherches. Il avait donc commencé ses recherches à l'étage, qu'il avait passé au peigne fin. Même une araignée n'aurait pas pu lui échapper. Ensuite, il s'était occupé du rez-de-chaussée. Mais là non plus, sa tournée d'inspection n'avait rien donné, sauf qu'il avait constaté que quelqu'un avait verrouillé la porte de la cave. En dépit de toutes ses bonnes résolutions, cette découverte avait fait bouillir son sang dans ses veines. Il avait été à deux doigts de se laisser emporter par un accès de fureur et de fracasser le bois de cette porte avec sa massette. Il s'était retenu à temps. S'il savait qu'il approchait et que Donden, ou qui sait, Donden et Tiampon s'étaient dissimulés dans le fouillis de la cave, il ferait une cible facile. Et là, il s'était mis en tête d'inverser les rôles. Dans cette optique, il avait brisé la serrure de la porte de la cave de façon à ce qu'on ne puisse plus l'ouvrir de l'intérieur. Cette manœuvre renversait la situation à son avantage. Personne ne pouvait plus l'attaquer par derrière. Tôt ou tard, les rats sortiraient de leurs trous. Sinon, il lui restait la possibilité de les enfumer. Mais cette stratégie semblait maintenant remise en question, car ce qu'il venait d'entendre n'avait rien d'une illusion. Il y avait bel et bien eu une bagarre avec un perdant et un gagnant. Cela s'était produit en haut. Dominique de Storm remonta lentement l'escalier. Parvenu dans le couloir de l'étage, il s'immobilisa, regarda le plafond et fixa la trappe en bois avec son anneau métallique. Il hocha lentement la tête en se passant la langue sur ses lèvres desséchées. Quelques heures plus tôt, cette trappe était ouverte et elle menait au grenier. Il en aurait mis sa main à couper. Il avait même escaladé les premiers échelons quand il n'avait pas voulu laisser Donden seul trop longtemps là-haut. Il plissa les yeux et tendit l'oreille, tous les sens en alerte. C'était quitte ou double, il le savait. Il attrapa la tige en bois et fit passer le petit crochet dans l'œil en métal de l'abattant. Ses trouillards avaient verrouillé la porte de la cave pour le faire tourner en bourrique avant d'aller se planquer au grenier. Il ouvrit la trappe et fit un rapide bond de côté afin d'éviter que l'échelle en bois ne lui tombe sur la tête. Mais l'échelle du grenier n'avait pas été sabotée. De Storm la fit descendre et entama lentement sa progression. Il s'arrêta à mi-chemin pour se concentrer. Il arrivait à la partie la plus délicate, quand il allait devoir passer sa tête à hauteur du plancher du grenier. Ses doigts, agrippés à la massette, il attrapa de sa main libre le marteau arrache-clou accroché à sa ceinture. Il le lança de toutes ses forces contre la charpente du toit, avant de s'élancer en avant, en regardant frénétiquement à gauche et à droite. Mais le grenier était quasiment vide, hormis de vieux bazars et une pile de cartons auxquels il n'accorda aucun intérêt. Ce fut l'appel d'air qui attira son attention. Il se glissa prudemment vers la lucarne ouverte. Un couteau était planté dans une des poutres. C'était celui que Donden avait voulu utiliser contre lui. Il l'arracha du bois et le passa dans sa ceinture. Il s'agrippa ensuite au bord de la lucarne et se hissa sur la pointe des pieds pour essayer de voir l'extérieur. Entendant un bruit derrière lui, il se retourna en un éclair. Mais trop tard. Le quatrième pied de chaise le percuta en pleine figure. De Storm trébucha et perdit l'équilibre. Lorsqu'il essaya de se relever, il avait perdu plusieurs dents. Eddie Tiampon taillada le monstre sans pitié, tel un hystérique, en poussant des hurlements de forcené. Toute la rage des démons qu'il avait en lui trouvait enfin un exutoire. Chapitre 33. Après avoir descendu la trappe du grenier en chancelant, Eddie Tiampon s'était retrouvé face à d'autres horreurs. Elsa Quisquater gisait à quelques mètres de là seulement, dans la chambre du milieu, morte, assassinée. De Storm avait enfoncé le crâne de la prostituée de luxe. Par un curieux hasard, il gisait au grenier, le crâne défoncé, lui aussi. Tels étaient les faits, horribles, surréalistes, impensables. Mais tout cela n'avait plus d'importance, car Eddie ne ressentait plus aucune émotion. Il avait déjà connu cette sensation. Son cerveau se coupait de tout, dans une réaction d'autodéfense, un peu comme une huître qui se refermerait à la moindre menace venue de l'extérieur. Mais ça n'avait jamais été aussi loin qu'aujourd'hui. Et là, oui, il se sentait bien, presque heureux. Mais cette béatitude s'arrêta d'un coup. Il entendait des bruits de pas dans le couloir. Il resta immobile, sans oser regarder derrière lui, refusant de céder à la folie. Les fantômes ne faisaient pas de bruit. Eddie Tiampon ferma les yeux et tendit l'oreille. Voilà, les fantômes étaient partis. Il n'avait pas à s'inquiéter d'éventuelles traces de pas. Il était resté en chaussettes. Elles étaient neuves, comme son caleçon de chez Avon. Il descendit à la recherche de ses vêtements. Il ne dut pas chercher longtemps. Ils étaient éparpillés sur les carrelages du couloir. Leur seule vue lui fit un choc. L'ordre et la propreté étaient pour lui la seule manière de surnager dans le chaos. Il s'habilla lentement, ce qui lui procura une sensation particulière, un peu bizarre, mais agréable. C'était comme s'il remontait le temps, dans une spirale qui mêlait passé et présent. Il décrocha sa veste du porte-manteau et regarda vers la droite, un peu vite peut-être. Il cligna des yeux à toute vitesse et détourna le regard, refusant de croire ce que ses yeux venaient d'enregistrer. Ce n'était pas possible. Ce genre de coup de chance était réservé à d'autres. Pas à Eddie Tiampon. Il posa à nouveau son regard sur la porte d'entrée. Il n'y avait plus de doute possible. Ce n'était pas une illusion. La clé était bien dans la serrure. Il pouvait sortir du presbytère bien tranquillement. C'était jouable. Après tout, son nom ne figurait pas dans l'agenda. Personne ne savait qu'il s'était trouvé là. Les seuls qui avaient été au courant étaient morts. Hormis la petite polonaise, mais elle n'entrait plus vraiment en ligne de compte. Par habitude, ses doigts fouillèrent ses poches. Il y trouva ses clés de voiture, son épingle de sûreté et le petit paquet de mouchoirs en papier qu'il gardait toujours sur lui, au cas où. Il ne manquait que son téléphone portable. Cela le décontenança encore un peu plus et il hésita entre rire et pleurer. Fuir, être libre, reprendre sa vie, comme si rien ne s'était passé. La perspective était attrayante, mais elle supposait de supporter l'angoisse étouffante d'un avenir incertain. Tant qu'il n'aurait pas retrouvé son téléphone, quelque chose resterait suspendu au-dessus de sa tête, comme une épée de Damoclès. Si la police parvenait à remonter jusqu'à lui grâce à son GSM, il serait définitivement foutu. On parlerait de lui comme d'un psychopathe en cavale. On ne l'aiderait pas, on l'insulterait, on l'interrogerait jour et nuit. Et peut-être le laisserait-on croupir dans une cellule d'isolement s'il ne confessait pas rapidement les 5 meurtres du presbytère et peut-être d'autres avec lesquels il n'avait rien à voir? Fuir ou pas? Il ne voulait plus avoir à prendre la moindre décision. Il avait déjà dû faire face à bien assez de problèmes comme ça. Il n'en pouvait plus. La clé émettait sur lui une force d'attraction presque irrésistible. Il pouvait aussi se rendre au commissariat le plus proche et tout avouer. Pourquoi ne pas anticiper, en effet? Il prendrait les flics de court. En se rendant, il bénéficierait peut-être de circonstances atténuantes. Mais qu'avouerait-il, au juste? Et qui le croirait? Personne, murmura-t-il en ouvrant la porte de la maison et en faisant ses premiers pas à l'extérieur. Sa décision était prise. Il n'avait qu'une seule solution, repartir de zéro. Il devait surmonter son sentiment de culpabilité et accepter de continuer à vivre, sans Francesca. Après tout, elle avait récolté ce qu'elle avait semé. Il regarda vers le ciel couvert et poussa un soupir de soulagement. Il n'y avait pas d'oiseaux. Il brunait toujours. C'était déprimant, mais on ne pouvait rien y faire. Il chercha sa voiture des yeux. Elle l'attendait bien sagement, à l'endroit où il l'avait garée. Il cligna des yeux et fixa le véhicule stationné à côté du sien. Une puissante BMW avec une grosse bosse dans le toit. Quelqu'un était assis au volant. Chapitre 34. La porte de la BMW était entrouverte. Marc Donden était installé sur le siège conducteur, le front sur le volant, une cigarette allumée aux lèvres et un GSM contre son oreille. Eddie reprit espoir. Tout allait bien se passer. Il n'était plus seul. Ils pourraient se rendre ensemble au commissariat. Malgré son euphorie, il s'approcha d'un pas hésitant. Il restait méfiant. « Belle petite mise en scène, non ?» Eddie s'immobilisa. Il connaissait cette voix. Il se retourna. Revenu d'entre les morts, l'inspecteur Pierre Vergoen était appuyé nonchalamment contre la façade, un revolver à la main. L'œil du canon était braqué sur le ventre d'Eddie. Il tomba à genoux. « Je vous en prie, » gémit Eddie. « Laissez-moi partir, je ne dirai rien. » Le flic ne répondit pas. La tête d'Eddie pesait une tonne. Malgré tout, il parvint à lever les yeux. Peut-être pour la dernière fois. Vergoen paraissait étonnamment serein au vu des circonstances. Son visage ne laissait rien transparaître. « Je ne vous ai jamais vu ici, » murmura Eddie. « Je le jure. » « C'est déjà mieux. » Cette réponse plongea Eddie dans la confusion. Dans sa position de soumission, il vit les chaussures de Vergoen s'approcher. « Vous allez m'abattre, c'est ça ?»« Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Eddie gémissait, comme un animal blessé. Cette torture psychologique était bien plus qu'il ne pouvait supporter. « Allez-y, autant en finir. »« Lève-toi, Eddie. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces bêtises. » L'inspecteur lui tendit la main et Eddie se releva péniblement, tout hébété. Vergoen avait bien dit « nous ». Quel beau mot! Eddie en eut presque une érection. Il chercha des yeux l'autre main du policier. Le revolver avait disparu. « Pourquoi vous ne me tuez pas ? » bafouilla-t-il. « Allons, allons. Si tu venais à disparaître, toi aussi, ça deviendrait une sale histoire. J'en ai bien peur. 5 personnes assassinées et aucune trace du meurtrier. Les flics seraient obligés de tout retourner, » dit Vergoen en se dirigeant vers la BMW, où il saisit Donden par le col et le sortit de la voiture. Sous la pression des médias et de l'opinion publique, la presse parlerait d'un remake des tueries du Brabant. Eddie restait les bras ballants, incapable d'articuler la moindre parole, et encore moins de faire quoi que ce soit. Vergoen attrapa la corde qui était toujours enroulée autour du buste de Donden. Il en inspecta le bout, qui n'était pas effiloché, mais tranché d'un coup net. « Félicitations, Eddie. Voilà qui ramène le score à 2-2, » dit-il avec un sourire bienveillant. Comme s'il parlait d'une partie de baby-foot. Eddie demeurait tout penaud. Il se sentait stupide. Le « nous » du début était bien éloigné de ce qu'il avait espéré. « Je suppose que tu vas essayer de mettre le coup de la corde tranchée sur le compte de Storm. » Eddie ne répondit rien. Il ne se rendit même pas compte qu'il hochait la tête, machinalement. « Parfait. Comme ça, toute l'histoire se tient magnifiquement bien, » conclut Vergoen. « Sauf si tu as oublié de nettoyer le couteau de tes empreintes digitales avant de le placer dans la main de De Storm. » À sa grande stupéfaction, Eddie n'avait pas le souffle coupé. Mais il continuait à hocher la tête, machinalement, en signe d'approbation. « Parfait. Je ne savais pas que tu avais ça en toi. C'est très bien comme ça. Pourquoi ? Ce fut le premier mot qui dit Tiampon parvint à articuler. Tout est parti à cause d'une spirale, répondit le flic. À cause d'une spirale ? Répéta Heidi sans comprendre. Exactement. Un petit dispositif de contraception en forme de spirale, précisa laconiquement Vergoen. Mais ne t'en fais pas. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger ? Répéta Heidi en bégayant tellement perdue que sa tête ne savait plus si elle faisait oui ou non. Francesca était enceinte de moi. Elle voulait ce bébé, pas moi. Elle a refusé d'avorter. Mais moi, je suis heureux avec ma femme. C'est pour ça. C'est pour ça ? C'est pour ça que quoi ? C'est pour ça qu'elle ne m'a pas laissé le choix. Dommage. Parce que cette salope était vraiment une déesse au lit. C'est moi qui suis arrivé le premier, Heidi. Pendant qu'Elsa et Donden étaient dans la salle d'attente et que toi tu fricotais avec la polonaise, j'ai voulu m'éclipser en douce. Mais je n'ai pas eu de chance. Je suis tombé sur deux storms. Heidi ne comprenait rien. Qu'est-ce que ce type attendait de lui ? Il voulait lui coller tous les morts sur le dos ? Flic ou pas, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, Vergoen. Ah ah ! Intéressant, dis-moi. Et pourquoi pas ? Votre GSM, lança Heidi. Il va vous trahir. Quel GSM, Heidi ? Demanda le flic. Il sortit de sa poche le téléphone qu'il avait pris à Donden. Il l'essuya soigneusement avec son mouchoir. Celui-ci ? Ce ne fut qu'à ce moment qu'Heidi comprit que Vergoen lui tendait son propre téléphone. Le mien ? Je ne l'ai pas pris avec moi, Heidi. Je ne suis pas aussi con. Heidi s'empara de son téléphone. Il ne restait que deux petites barres de batterie. C'était la catastrophe. « Tu me donnes une demi-heure, » dit platement Vergoen. « Après, tu appelles le commissariat de la zone de police d'Uccle. Je m'arrangerai pour que l'appel soit automatiquement transféré sur mon GSM. »« Je ne connais pas ce numéro, » articula Heidi, se sentant dans la peau d'un moineau qui voit le chat approcher. « 02 5 6 3 9 6 3 9. » Heidi commença à tourner sur lui-même, comme une toupie, à la recherche de Dieu sait quoi. Son regard désespéré passait de sa voiture au flic, qui s'était placé de façon à empêcher toute fuite éventuelle. « Regarde dans tes contacts, j'ai enregistré le numéro. D'ailleurs, ça m'a étonné que tu ne l'aies pas déjà, » dit Vergoen en souriant. « Mais, du calme, Heidi. Dans une demi-heure, je te dis. Tu as donc encore tout le temps pour faire ce que tu as à faire. Je ne suis jamais venu ici, et les autres sont morts. Tout ce qu'il reste, c'est ta version des faits. Et les indices qui permettront de l'étayer. Indices que nous trouverons sous ma bienveillante direction, bien entendu. Ne t'en fais pas. Même s'il reste une trace ou l'autre qui ne colle pas trop bien, la logique restera la même. Tu as été pris de panique, Heidi. Tu étais dans une situation de vie ou de mort, plongé au beau milieu d'un film d'horreur, acculé par un tueur déchaîné. Dans ces cas-là, on a parfois tendance à oublier des choses ou à s'en mêler les pinceaux. Le contraire serait vraiment suspect. Vergoen se dirigea vers sa voiture, une Renault d'un gris passe-partout. À plus tard, Heidi. Mais, soit tu deviens un héros populaire qui est venu au bout de Dominique de Storm, le meurtrier de trois innocents, au péril de sa vie, soit tu vas en prison. Mais vous aussi dans ce cas. En effet, j'espère pour toi qu'on ne sera pas dans la même cellule, conclut Vergoen en lui adressant un clin d'œil plus menaçant qu'un AK-47 chargé. L'inspecteur se glissa calmement derrière le volant de sa voiture et démarra. « À toi de voir !»
C'était « À toi de voir » de Luc Deflot. À bientôt pour un prochain « À vous la suite !»